see no goddamn you to really got bands with your hands on me. Smoking on nothing but gas, what you really gonna do when your tank's on me? Moonwalking, I'm a real smooth criminal. Who's talking like I won't do damage, so critical.
You're listening to CKUT 90.3 FM in Montreal.
The following is a previously broadcast program.
Écoutez le magazine Dignité Noire, présenté par Mbayaji Mbayriway. Au sommaire, cette semaine...
Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à Dignité Noire pour notre cinquième saison. Ça fait cinq ans qu'on existe déjà à Dignité Noire, ça passe vite. Alors c'était un réel plaisir de vous retrouver après cette pause musique estivale qui nous a permis d'engranger un peu d'énergie. Donc Brice, comment ça va? T'as passé un bel été?
Super, super, merci beaucoup.
T'as pas voyagé toi? T'es resté sur place?
Non, c'est pas foutu.
Toi t'étais allé au Bénin en mai?
Exactement, exactement, j'en ai profité très tôt.
Parfait, c'est bien. Alors c'est toujours un plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été ici au Québec ou à l'étranger. Et donc on reprend pour... notre cinquième saison jusqu'au mois de décembre. Au programme aujourd'hui, on va recevoir des vieux amis. C'est toujours intéressant de reprendre avec des vieux amis qui nous accompagnent depuis 5 ans. Donc, on va commencer avec Brice Driguel. Driguel, que vous connaissez très bien, PDG ou DG de 24 heures chrono. Hein, ça va, Driguel?
Oui, ça va.
En forme? Parle un peu plus dans le micro là, pour qu'on entende ta belle voix. Tire un peu le micro vers toi.
Comme ça?
Yes. Ça va bien, toi?
Oui,
bah, très content d'ouvrir cette saison avec toi. T'es un fidèle de l'émission et puis ça nous fait plaisir de t'accueillir. Alors, avant de revenir à toi, parce que toi, tu es candidat pour un grand prix là. Alors, on invite les gens à te soutenir. Hein. Il suffit juste d'aller liker. Là. On va leur préciser ça tantôt. Mais après, Driguel, je vais parler de la caravane noire au volant avec Alain Babineau. Je vais l'appeler à 19h15, donc on va un peu en jaser. En fait, ça va être plus une jasette qu'une entrevue parce que nous sommes tous les deux des co-organisateurs de cette caravane, la Noire au volant. C'est quoi Noire au volant? Ben, on va vous en parler tantôt, restez à l'écoute. Et à la fin de l'émission, je vais m'entretenir avec deux nouveaux chroniqueurs. Il s'agit de Renson Michel et de Gaston Mombéré. Alors, ils s'ajoutent à l'équipe. Ça veut dire que c'est bien, ça. Ça veut dire que l'émission est bien, le magazine intéresse du monde qui veulent y contribuer. Ça nous fait toujours plaisir. On rappelle que c'est du bénévolat. On vous entretient sur des sujets touchant les communautés afro-québécoises, touchant le monde noir, sur la pensée noire. C'est vraiment le fait bénévolement parce que ça nous tient à cœur. Donc, c'est toujours un plaisir de voir de nouvelles personnes s'y ajouter. Renson Michel va faire des chroniques sur les études haïtiennes. Haïti a développé une forte pensée noire. Une forte pensée, simplement. Une pensée sociale importante qui n'est pas très connue. Et donc, Renson Michel va se proposer de nous la faire découvrir. Alors, ça sera avec un grand plaisir, n'est-ce pas? Haïti où, disait Aimé Césaire, la négritude s'est mise debout pour la première fois. Ensuite, Gaston, lui, il va nous parler dans ses chroniques au fil de l'année là du parcours des Afro-Québécois, n'est-ce pas? C'est intitulé « Mes valises et mes bagages », quelque chose comme ça, là, sa chronique, il va nous en parler. Bah, c'est que deviennent les immigrants africains et caribéens qui arrivent à Québec? Quel est leur parcours? Comment ils s'intègrent? Donc, c'est vraiment une chronique sociale que Mombéré va faire. Et je trouvais que l'idée était très intéressante. Donc, on va en jaser avec lui aussi. Alors, soyez à l'affût. Ils vont passer à la radio aux deux semaines. Ils vont commencer probablement peut-être la semaine prochaine, là, parce que, bah, on a hâte de les écouter. Donc, je vais m'entretenir avec eux, tantôt, à 19h35, de leur parcours, du contenu de leur chronique, etc. Rappelez-vous que vous pouvez nous suivre toujours. C'est intéressant quand on est à la radio avec la baie vitrée. Les gens passent sur la rue et nous saluent. Ça fait plaisir. Alors, vous pouvez nous suivre toujours sur la page Facebook d'Unité Noire-CKIA FM, sur la page de CKIA FM. C'est CKIA tout simplement. Si vous manquez nos émissions, c'est pas grave. Elles sont toutes archivées en balado sur www.ckiafm.org. Vous pouvez aussi nous suivre en direct si vous avez un poste radio là au point sous les ondes 88.3 FM. Alors, Drigel. Toujours un plaisir de te recevoir. Ça va bien?
Ouais, je commence à t'habituer. Hein.
Ah! Alors, l'année prochaine, tu vas faire une chronique sport.
Ouais, ben oui, pourquoi pas?
Ben oui, l'année prochaine, c'est chroniqueur sport. Ben, ça me donne une idée.
Ouais, c'est ça.
Il faut que tu viennes l'année prochaine.
Pourquoi
là.
Pas? Pourquoi
parfait,
pas,
parce que le sport, c'est intéressant. Toi, tu fais beaucoup de sport pour intégrer les jeunes immigrants, etc. Et puis, je trouve que le sport, ça développe la personnalité et la confiance en soi. Et ça, c'est très important, ça. Alors, toi, tu. PDG, cofondateur et DG.
DG.
Cofondateur et DG. P, là, c'est pas encore arrivé, quoi.
Non, je veux pas de ça.
On est, je sais que toi, tu es gamme. Donc, tu es DG de 24 heures chrono. Qui est un organisme qui fait quoi?
Ben, qui accompagne la jeunesse immigrante pour son intégration et son épanouissement dans la société.
Par le sport.
Par le sport, le bénévolat du Matora aussi.
Moi, j'aime beaucoup ton projet parce que c'est inédit. Hein, on ne voit pas ça souvent. Souvent, les gens vont faire l'intégration des immigrants. On va leur donner de l'emploi. On va leur donner chercher de maison. Mais toi, tu vises le sport. Et les jeunes. Et je pense que c'est important. On prépare la relève avec les jeunes. Et d'ailleurs, samedi passé, tu as fait un bel événement. Là, moi, j'y étais. C'était la journée sportive. Là.
Ouais, et c'est la première édition de notre journée sportive. C'est en collaboration avec les centres métiers.
Okay.
C'est, on a eu à peu près autour de 600 personnes très satisfaites de la journée. Donc,
T'étais content?
Ouais.
Toute
ouais.
L'équipe était contente?
Ouais, c'était une journée chargée, mais les gens y ont aimé. Donc, du coup.
Bah, moi, j'ai passé 3 heures là-bas. J'étais arrivé vers 15 heures jusqu'à 18 heures.
Il manquait juste.
La finale, ouais, j'ai pas.
Non, il fallait s'habiller. Ah. T'as pas respecté ça par contre.
Non, mais c'est vrai, j'étais arrivé en retard. Puis. J'ai fait le sport du lundi au vendredi. Puis samedi, dimanche, c'était mon repos. Là. Fait que je voulais venir juste voir les jeunes là.
T'es
mais c'était
bien.
J'ai jasé avec les jeunes aussi. J'ai trouvé. On était avec 3 amis. Puis on a trouvé que c'était intéressant parce que nous autres, bah, on est souvent nous, hein, tu sais, les grands frères.
Mm-hmm.
Nous sommes tous des universitaires ou des diplômés d'université. On discute entre nous. On ne connaît pas la réalité des jeunes frères. Là, et puis ce jour-là, on a discuté avec les jeunes et puis on a trouvé que c'était le fun. À la fin, on s'est dit, mais coudonc, tu sais, on est tellement isolés de nos petits frères. T'sais. On est tout le temps, nous, on ne se rend même pas qu'on a des petits frères. Peut-être qu'ils ont besoin juste de jaser avec nous, des conseils, etc.
Mm-hmm.
Je pense que c'est vraiment intéressant ce que tu as fait. Mais n'hésite pas à nous inviter quand tu as des activités. Ben, n'hésite pas à nous inviter, même pour être bénévole. Dis-nous, on va venir être bénévole auprès des petits frères. Je pense que c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas pour ça que je t'invite aujourd'hui.
Oui.
Aujourd'hui, je t'invite pour que toute la communauté, tous les gens qui nous écoutent te soutiennent. Parce que tu es finaliste au prix Arista de la Jeune Chambre de Commerce de Montréal.
Oui.
En quoi consiste ce prix?
Ben, déjà, le prix, c'est le prix coup de cœur. C'est le prix coup de cœur pour l'entrepreneur coup de cœur pour la province, en fait. Mais je suis candidat aussi je suis finaliste aussi parce que dans ma catégorie aussi pour l'entrepreneur social de l'année. En fait, ça on saura les gagnants lors de grands galas.
Donc à part tu es aussi coup de cœur.
Le coup de cœur, on est tous les 30 finalistes.
Il va juste
avoir un coup de cœur pour la province en fait.
Ah, okay.
C'est pour ça qu'on a besoin de. J'ai besoin.
Hey, c'est très compétitif l'affaire.
C'est ça. Ouais.
Mon Dieu. Bon alors qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider là?
Juste un like.
Comment on fait? Bon là on va sur ta page ou sur la page de Jeune Chambre de Commerce.
Ouais, c'est sur cette page-là que ça compte en fait. Les likes comptent seulement sur le.
Mais moi j'ai liké sur ta page à toi.
Ça compte pas.
Oh mon Dieu.
Ouais, c'est ça.
Mais là sur leur page c'est 30 photos. Hein.
Ouais, c'est ça, mais faut aller choisir. Faut juste liker ma photo.
Ah, il faut cliquer sur ta photo.
Ouais, il faut cliquer sur ma photo, liker.
C'est interactif.
Ouais, c'est ça. On peut cliquer, on peut commenter ou on peut. La chose la plus importante c'est juste liker en fait. Ouais.
Ok, donc ce que vous voulez. Donc. Rappel, c'est la page de la Jeune Chambre de Commerce
de Montréal.
Est-ce que tu as la page Facebook là, on va leur dire ça.
Ouais.
Jeune Chambre de Commerce de Montréal. Vous allez là-bas, vous allez avoir la photo des 30 finalistes.
C'est
de issus de toute la province. Et puis Drigel, bah vous le connaissez, hein, vous le voyez à l'image là, c'est lui. Vous allez cliquer dessus là, cliquer sur son image et vous likez. Moi, il faut que je le fasse aussi. Moi, j'ai déjà liké sur ta page à toi.
Mais c'est ça qui est, je pense que
il faut faire une nouvelle publication.
Mais parce que j'ai fait, je pense que c'est déjà un peu trop tard, un peu en
ah
fait.
Ah ouais.
Ouais. Parce que j'ai partagé mes likes, je pense, mais c'est pas, on va se rattraper.
Non, mais en tout cas, c'est ça. Donc, vous allez sur la page, on va réécrire ça. Tu vois, je vais réécrire sur la page des Dignités Noires.
Mm-hmm.
Je veux écrire vraiment la procédure là. Allez sur la page telle.
Ça prend quelques secondes, 10 secondes.
Ouais, c'est ça.
Même.
Et donc. Le prix, le gagnant, c'est celui qui a le plus de likes.
Exact, c'est ça. C'est si simple que ça.
Et ça avance bien pour toi maintenant?
Ouais, ça avance, mais c'est quand même compétitif.
Ah ouais, vous êtes 3 sur votre catégorie.
Non, mais pour ça, on est les 30.
Ah, pour tout le prix, là.
Ouais.
Ah,
c'est ça. Okay. Pour ça, c'est parce qu'il y a,
il y a
deux.
Il n'y a prix. Pas de prix par catégorie, dans le fond.
Par catégorie, ça, c'est pas nous, c'est pas le public qui vote, en fait. C'est le jury. Ah, okay. J'ai déjà passé avec le jury. On sera les 30, les 25 octobre seulement lors des Grands Galas Montréal.
Ah, mais là, c'est le prix coup de cœur.
Ça, c'est le prix coup de cœur. C'est qui l'entrepreneur coup de cœur de la
Donc
province.
Là, toi, tu risques d'avoir deux prix.
Ben, ça, on touche du bois. Hein. On espère. Ah,
c'est
on
bien, espère. Ça. Toi, tu es gourmand, tu vas avoir deux prix.
Non, on est... faut pas dire ça comme ça, sinon les gens.
Brice, dans le fond, une question pour toi.
Je suis sur la page. Est-ce qu'il faut juste liker ou bien réagir? Parce que tu peux faire love, like ou tu vois un peu.
Ouais, tu peux. C'est j'aime, j'adore ou comme ça. Ouais.
Ok.
Ouais,
c'est ça. Maintenant, deuxième question, c'est que quand je vois ici, je pense que tu es deuxième.
Ouais.
En 940 likes et tout.
Deuxième.
Et puis, ouais, ouais. Il y a une dame qui est première avec 1000 likes.
Ça, c'est la dame qui traumatise.
Directrice générale R Magazine. Donc
ça, c'est la dame qui traumatise Drigel. Hé, hey, les gars, allez-y, là, s'il vous plaît. Les dames, les messieurs, allez-y, likez. Parce que là, Drigel a 100 likes de gagner. Québec, en plus, c'est le candidat de Québec. Là. C'est le candidat de Québec. Drigel, c'est le candidat de Québec. La ville de Québec doit battre Montréal. Donc, par c'est fierté ça. Municipale...
Faut pas la donner l'idée, parce que Montréal sont plus beaucoup que nous.
Non, mais ils sont trop nombreux. Il y a ouais, beaucoup de candidats.
Ils sont trop nombreux, faut pas la...
ouais. Mais nous, on mais a un ça. Candidat. Il faut qu'il passe, là. Ça, c'est la fierté de Québec qui est en jeu, là. Alors, Brice, c'est correct? Ça se fait bien, simplement?
Oui, ça se fait très bien. Et
donc,
puis, juste...
comment t'as fait.
Pardon?
Explique comment t'as fait là.
Ben j'ai juste, il m'a envoyé le lien.
Ok.
Donc j'ai juste cliqué sur le lien, je suis allé, j'ai défilé, j'ai vu la publication, j'ai vu les 30. Il y a aussi le DGA, le directeur général de la ville de Percy là.
Ah oui, oui, l'Ivoirien.
Ouais, ouais, Jean-François Kakou là.
Ouais, ouais, ouais.
Il est aussi là, lui là il sent 17 light.
Bon, donc, lui c'est fini, là il est éliminé.
C'est ça. Donc Brigel est
non,
deuxième avec 9.
La force à nos frères aussi.
Oui, mais là il faut qu'on reporte sur toi là, les stars.
C'est ça. Donc tu es deuxième avec 960 ou 941 likes. Et puis il y a une dame à Montréal, directrice de R Magazine là, qui a plus de 1000 likes. Donc,
Mais c'est quand même bien parce qu'imagine, elle, à Montréal, il y a plein de monde. Elle a fait 1000. Mm-hmm. Toi, de Québec, tu as fait 940.
On va atteindre 1000.
Quelques, oui, tu as quelques poussières là. De,
on va atteindre,
tu vas là, il faut que tu la dépasses. C'est pourquoi on t'a invité ici là. Pour que les gens puissent aller liker. Donc, les gars, jeune chambre de commerce, Brice, tu peux me poster sur Dignité Noire là.
Oui, oui, bien
Il faut
sûr.
Que les gens aillent liker. Hein? Ok, c'est bon oui, alors, qu'est-ce qu'on peut faire là? J'imagine que tu en parles autour de toi là. Dans
ouais, ouais, j'en parle, on essaie. Mais sincèrement, je tiens à remercier vraiment, je pense que tous ces gens-là qui se mobilisent pour cette cause-là, pour moi en fait, ça me ouais. touche vraiment en fait. Pour moi, sincèrement, moi je pense que j'ai déjà gagné mon prix en fait. Donc j'étais là hier chez moi, j'ai pensé à tout ça, comment je reçois les messages des gens qui les gens, c'est la première fois que j'avais à parler avec ces personnes-là qui n'arrêtent okay. pas de me dire que écoute, on essaie de mobiliser les gens autour de nous pour aller voter pour toi. Ça me touche en fait.
Non, non mais moi je pense que ton œuvre est ce que tu fais, moi je te suis depuis quelques années là, plutôt ce que tu fais est très intéressant et puis tu as quelqu'un qui les donne. Aux jeunes, tu les donnes à la communauté. Puis je pense que ça, c'est important. Le prix que tu vas avoir, ça va servir. Bon, le prix, c'est quoi? C'est 1 million ou c'est quoi?
Ça, c'est déjà. Juste avoir gagné le cœur des gens.
Oui, mais le
gens,
prix, c'est quoi? Le prix, Arista, dis-nous là. Oh, dis-nous. C'est non, quoi le prix? Devez...
Moi, je me constate même pas sur ça. Je constate seulement que les gens puissent aller voter.
Bah, je comprends. Bah, les gens qui ont liké, oui. c'est-à-dire des gens qui aiment ce que tu fais. Ça, c'est le grand prix aussi. Là. Les gens
c'est
se tiennent. Et ces gens seront là l'année prochaine pour suivre tes activités d'année en année. Ça, c'est déjà le premier prix que tu as gagné. Mais nous voulons maintenant que tu sois le coup de cœur de la province, pas seulement de la ville. Ah, dans la ville, tu nous as déjà gagné. Là, mais là, il reste la
on
province.
Essaie,
là, alors, Arista, c'est quoi? C'est la visibilité de ton organisme? C'est des choses comme ça?
Ouais, ça aussi. Je pense, c'est parce que la jeune chaîne de commerce, c'est un des plus grands réseaux de jeunes cadres, des okay. entrepreneurs au monde, en fait.
OK. Wow.
Ouais, c'est un des plus grands, en fait. Donc, du coup, ces prix-là, c'est... Ça va donner, bien sûr, la visibilité à moi et à 24 heures chrono.
Okay.
Puis, je pense que c'est important pour ma carrière professionnelle de remporter ce prix-là.
Et parce que tout ce que tu gagnes comme prix, bah, ça va à l'organisme. Ça aide les jeunes oui, immigrants,
exactement.
N'est-ce pas? Plus tu as de visibilité, plus tu as de soutien, bah, plus l'organisme va grandir. Donc, ça va desservir tous les jeunes de Québec. Parce que, je rappelle, tu sers les jeunes de 5 arrondissements à tous les jeunes de Québec.
C'est ça.
Et donc, il y a de plus en plus de jeunes immigrants, des parents immigrants qui arrivent. De jeunes de première génération, de deuxième génération, ils ont besoin d'encadrement. Et moi, je dis toujours, si les jeunes nous échappent, bah, l'investissement pour les rattraper plus tard, c'est plus coûteux. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut investir. Ça coûte moins cher soutenir des organismes comme les tiens pour aider les jeunes à être sur le droit chemin et réussir. Mm-hmm. Si on laisse les jeunes décrocher ou aller sur le bord du chemin, ben, pour les remettre sur le droit chemin, ça va nous coûter plus cher. Donc ça là, les décideurs, ils ne comprennent pas ça. Là, eux, c'est quand il y a un problème qu'ils courent pour résoudre. Mais il faut investir dans la prévention. Et donc, toi, tu es un organisme de prévention en tout point. Mm. Est-ce que j'ai tort?
Non, non.
Ah, je t'arrache la parole de bouche.
T'as tout dit.
Alors, tout dit, écoute, mon cher, du fond de cœur, je te souhaite vraiment bonne chance. Alors, ça, j'ai voulu en jaser ici en ondes pour que les gens puissent en apprendre et puis aller liker. Donc, je rappelle, Drigel est le candidat de la ville de Québec pour le prix Arista 2022 de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Il a besoin de votre soutien. Pour qu'il gagne, il suffit d'aller liker sa photo sur la page Facebook de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Donc, comment on fait? Brice, tu peux nous expliquer un peu comment tu as fait là pour que les gens y aillent?
Oui, je viens de partager le lien sur la page Facebook de Dignité Noire. Donc, vous pouvez juste défiler parmi les 30 photos. Et une fois sur la photo de Brigel, vous cliquez sur like ou bien j'aime. Vous donnez une réaction. Okay. Vous pouvez commenter si vous voulez, mais c'est vraiment la réaction qui importe. Like, j'aime ou bien j'adore. Des choses comme
mais
ça.
Mais pas, je déteste. Hein.
Non,
pas
non.
Parfait. Merci beaucoup, Brice. Alors, mon cher, les prix, c'est quoi le dévoilement du prix, c'est quand?
C'est le 25.
À Montréal.
C'est le 25 lors de Grand Gala à Montréal, mais le vote termine le 20.
D'ici le 20, là, c'est ça, la semaine prochaine. C'est pourquoi on a tenu à te recevoir aujourd'hui. Donc, on a une semaine. Oui. Drigel est à 100 likes de la personne qui est devant lui. Il est deuxième. Là. Québec va gagner. C'est la fierté de Québec. On va se mobiliser pour que tu gagnes. Là.
Bah, c'est qui est sûr, on va se battre jusqu'à...
Ah ouais, on se bat, okay. On va pas
après
lâcher ça.
Après ça, si ça n'arrive pas, donc on va...
Parfait.
On va accepter.
On fait tout ce qui est à notre possibilité.
Ouais, exactement.
Et puis on laisse le reste entre les mains de la providence de Dieu.
Exactement.
Bonne chance, mon cher.
Mais merci, et merci encore pour l'invitation. Puis
tu sais que nous, tu es un coup de cœur pour nous déjà.
Ouais. Hein? Toi, dès le début, hein.
Ah ouais, on est là dès le début. On lâche pas.
Non, vous devrez.
Parfait, merci mon frère. Bonne soirée.
Merci.
Alors, mesdames et messieurs, vous êtes bien sous CKIA ou à l'émission Dignité Noire au 88.3 FM. Vous pouvez nous suivre aussi sur notre page Facebook Dignité Noire-CKIA FM. Si vous manquez nos émissions, c'est pas grave. Elles sont toutes archivées en balado sur www.CKIA FM. Alors, après cette petite pause, mon cher Brice, on va aller à Montréal. Je vais appeler Alain Babineau de Montréal pour discuter avec lui de la caravane noire au volant. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Là. Brice, une petite pause musicale. Le temps que j'appelle Alain Babineau. Donc, on va avoir une petite jazzette de 15 minutes environ avec Alain Babineau sur la caravane qui vient samedi et à laquelle vous êtes toutes et tous invités. Dignité Noire. Vous êtes bien à l'émission Dignité Noire sous CKIA 88.3 FM. Alors, c'est la reprise, on est très content. On accueille les vieux amis, dont Alain Babineau. Salut Alain.
Bonjour Mbaye.
Comment vas-tu?
Toujours bien mon ami, toujours alors, bien.
C'est la première émission, donc aujourd'hui là, on fait le tour des vieux amis de l'émission. Hein, on jase avec eux, dont toi.
Les vieux amis, oh mon Dieu.
Non, pas vieux en âge, c'est-à-dire qu'on te connaît depuis longtemps.
C'est bon. C'est
on,
bon.
On se connaît depuis, mais pas que tu es vieux en âge là. Non, t'es encore un jeune frère. aux invités.
Oui.
Alors c'est ça, Alain, je te reçois aujourd'hui pour toi. Tu n'es plus à présenter là. Tu es ancien, tu es diplômé retraité de la GRC, ancien expert en profilage racial de la ville de Montréal, directeur exécutif de la Coalition Rouge. Tu vas nous dire en quoi consiste la Coalition Rouge. Donc je te reçois aujourd'hui pour parler de la caravane noire au volant qu'on organise samedi prochain. On organise ensemble, donc on va en jaser. Mais d'abord, c'est quoi la Coalition Rouge là? Tu peux te présenter un peu à nous là? C'est quoi?
Excusez, j'ai avalé quelque chose de travail.
Ok, pas de souci.
La Coalition Rouge, c'est un organisme de, communautaire, bien entendu, qui a vu le jour, je pense, environ un an.
Okay.
L'an passé, à peu près à la même époque, lorsque la Coalition a fait une pétition pour demander au gouvernement fédéral d'établir une loi sur le profilage racial. Alors, c'est vraiment, ça a été comme l'élément qui a créé cette coalition. Et puis, c'est un groupe d'individus qui sont vraiment pour combattre le profilage, la discrimination de toutes ses formes. Alors, Joël de Bellefeuille est vraiment le fondateur de la Coalition Rouge. Joël de Bellefeuille, qui maintenant il se présente comme député ici à Montréal pour les élections du mois d'octobre, ouais, avec le Bloc Montréal, Balarama Olness, qui est le chef de cette salle. Mais Joël a créé la coalition pour vraiment être un organisme pan-canadien.
Okay.
Alors, on a quand même été chercher des individus un peu partout en province, au pays, pour justement s'attaquer au racisme d'une façon systémique. C'est sûr qu'on adresse des cas individuels, mais c'est vraiment s'attaquer aux lois, aux pratiques, aux façons de faire que possèdent certaines institutions, que ce soit provinciales, municipales ou même fédérales, pour justement pallier à la discrimination sous toutes ses formes.
Donc là, vous agissez coast to coast, là, de Colombie-Britannique.
Oui, exactement.
Parfait.
Mais encore une fois, Mbaye, il faut dire que c'est quand même un organisme qui est naissant. Hein? Alors, ça fait un an, et puis bon, on essaie de s'établir tranquillement.
Et justement, vous collaborez avec nous ici à Québec aussi à l'organisation de la caravane Noir au volant. Noir au volant, c'est quoi? Tu peux expliquer en deux mots là aux gens qui nous écoutent en quoi consiste Noir au volant? Je pense que c'est un concept qui vient des États-Unis aussi. Hein?
Oui, c'est un concept qui a été élaboré aux États-Unis, comme bien les concepts d'ailleurs, mais c'est une réalité qui touche tous les Canadiens. C'est-à-dire que les personnes noires particulièrement, dans certaines provinces, ça peut être des autochtones ou des personnes racisées, qui sont ciblés, si on peut dire, par les services de police pour des interpellations ou des interceptions de véhicules sous prétexte d'enforcer les lois sur la circulation, mais qui servent de prétexte pour enquêter ces gens-là sur des croyance d'être impliqué dans des éléments criminels, là, des infractions criminelles ou des activités criminelles. Alors, c'est vraiment la loi, par exemple, ici au Québec, l'article 636 du Code de sécurité routière, qui est utilisé d'une façon prétextuelle, si je peux employer le mot, pour justement enquêter les individus noirs basés sur les stéréotypes que les individus noirs sont surreprésentés dans la criminalité. Alors, c'est la discrimination pure et simple.
Alors que l'article 636, est, je pense, a été bien encadré en 90, je pense. Toi, tu es juriste, tu prends que. C'est limité, c'est limité au, normalement, c'est limité au contrôle d'ébriété, au contrôle de l'état, de l'état mécanique du véhicule, et puis à la validité des assurances, permis de conduire, quelque chose comme ça, je crois.
Exactement. L'article 636, c'est une loi provinciale. Toutes provinces au Canada ont des lois provinciales qui régident la circulation, le code routier, si on veut.
Ouais.
Alors, l'article 636 n'est qu'une législation de du pouvoir qu'ont les policiers, qui est un pouvoir de common law, hein, qu'ont les policiers pour procéder à des interpellations aléatoires de véhicules, mais simplement dans le but de faire des vérifications sous le code de la route. Vous voyez?
Ouais.
Alors, la Cour suprême a légiféré là-dessus, a donné une jurisprudence en 1990, c'est l'arrêt La Douceur, qui dit que les policiers peuvent procéder à des interceptions de véhicules de façon aléatoire, mais seulement pour le but de, d'appliquer les lois de la sécurité routière.
Mais c'est ça. Or, souvent, on l'a vu hein, le 31 août dernier avec Stanley Bastien, qui a été arrêté sur l'autoroute 40, simplement parce qu'il roulait, il avait une voiture de location. La police l'a arrêté. Il lui a, il a demandé son permis. Il a répliqué au policier, mais pourquoi vous m'avez arrêté? Ben, l'argument aussi bidon que cela puisse paraître, c'est simplement que vous êtes en voiture de location. C'est aussi bidon que ça. Là. On n'arrêterait jamais un blanc ou une personne blanche en voiture de location. Mais comme c'est noir, on l'arrête. Donc, pourvu que vous soyez dans une voiture de location, une voiture de luxe, ou même pas de voiture de luxe, parce que moi, j'ai rencontré un jeune Congolais ici à Québec. Là. Il m'a dit, mais on l'a arrêté plus de 10 fois à Québec. Toi, lui, n'a pas de voiture de luxe, mais tout le temps, on arrête pas mal de jeunes. Là. Et j'ai entendu dire que même ici à Québec, hein, dans l'arrondissement Beauport, là, les policiers se vantent même. J'ai eu deux sources même. Quelqu'un me l'a confirmé la semaine passée. Que les policiers de l'arrondissement de Beauport, là, bah, ils trouvent que c'est même sans gêne. Ils disent que quand ils voient un noir dans la voiture, ils peuvent l'arrêter. Ils ne craignent rien, quoi. Et fait que ça, là, je l'ai entendu de deux sources différentes. Là. Ya, évidemment, exactement, on n'a pas de preuves, mais on entend à travers les discussions, quoi. Donc, il y a, y a aussi de l'impunité,
c'est
là.
C'est des sources crédibles. C'est des sources crédibles, parce que ça répète exactement ce qu'on entend depuis une trentaine d'années. Donc, il n'y a rien de nouveau ici, là. Une trentaine d'années au pays où les personnes noires, particulièrement, je vais vraiment porter l'accent sur les personnes noires particulièrement, se font intercepter partout au pays sous l'utilisation des codes routiers de chaque province pour justement procéder à des enquêtes sous prétexte. Et sous prétexte que les Noirs sont plus aptes ou portés, si je pourrais appeler l'expression, à être impliqués dans la criminalité. Alors, il n'y a rien de nouveau. Puis dans l'arrêt, il y a eu un arrêt en 2005 ici, à Montréal, le nom m'échappe là présentement, mais la juge Juanita Westmoreland Traoré, la première femme juge au Canada, première juge noire au Canada, au Québec, a dit que peu importe si les Noirs conduisent un véhicule ordinaire ou de luxe, ou qu'ils sont de milieux défavorisés, ou qu'ils sont des professionnels, les stéréotypes sont utilisés de la même façon.
Ouais, ouais. Ah, mais ça serait intéressant de m'envoyer cet arrêt-là. J'aimerais ça.
Oui, je t'ai envoyé le...
Mais donc, c'est ça. Alors, c'est un phénomène qui est vraiment répandu. Bon, mais là, il y a quelques frères qui ont quand même gagné des causes là, devant la justice, comme Jean-François Ducas en juillet dernier avec la police des Repentigny. Je pense qu'il y avait aussi un autre jeune là, qui a fait 13 ans avant de gagner sa cause. Hein. Je pense que c'était... j'ai vu ça.
Y a Joël de Bellefeuille.
Oui, il y a Joël, c'est ça. Il y a Joël de Bellefeuille. J'espère qu'il sera là aussi samedi.
Oui, qui sera là. Plusieurs procédures judiciaires que Joël a gagnées contre la police de Longueuil. Il y a aussi Leslie Blanc. Leslie Blanc qui était dans sa cour, tu comprends, et qui était... Il y avait une fête pour enfants un samedi, et puis il a utilisé l'allumeur de cigarette là, dans son véhicule pour... Ouais. Pour prendre comment on appelle ça, pour gonfler les ballons. Là,
oui, pour les jeunes.
Pour gonfler les ballons avec un appareil.
Ouais.
Et puis la police est venue lui demander ses papiers. Etc. Il dit, mais pourquoi je vais demander des papiers? Je ne conduis pas. Ah oui, mais vous êtes en possession du véhicule. Alors, il n'a pas voulu donner ses papiers. Alors, on l'a arrêté. On l'a menotté.
Ah oui, devant ses enfants. Là.
Oui. Pardon?
Devant ses enfants même, là.
Devant ses enfants, devant la famille, etc. Alors Leslie s'est défendu et puis il a amené en cours de la personne, il a gagné.
Okay.
Bien entendu, les charges contre lui ont été abandonnées parce que la loi dit que les policiers peuvent demander au conducteur d'un véicule de s'identifier. Ça, il n'y a aucun problème. Mais il n'était pas un conducteur d'un véhicule.
C'est ça, il ne conduisait pas.
Il ne conduisait pas, mais en plus de ça, il n'était pas sur la voie publique, tu comprends? Il était sur terrain. Le véhicule était sur son driveway. Alors, tu vois...
Donc là, il y a un abus. Là. Justement, les policiers abusent de cette disposition. Raison pour laquelle nous allons marcher, nous allons organiser une caravane samedi pour dénoncer le profilage racial au volant et demander la révocation de cet article-là. Donc, moi, je dis aux gens, soyez nombreux, rejoignez-nous samedi prochain. La caravane, c'est une caravane de voitures qui partira dès 13h30 du bureau de comté du député de la coalition Avenir Québec de Montmorency, situé au 2400 boulevard Louis XIV, pour arriver devant l'Assemblée nationale à 15h30, où il y aura un rassemblement de 15h30 à 16h30. On va faire témoigner des gens qui ont vécu le profilage racial au volant. Parce que souvent, le discours que les policiers nous disent, ça n'existe pas. Les policiers nous disent que ça n'existe pas. Eh bien, samedi, on va vous présenter des gens qui ont été profilés, qui ont gagné leur cause devant la justice. Et nous allons présenter nos revendications aux élus parce que nous voulons demander au prochain gouvernement et aux prochains députés d'avoir le leadership de réformer, de révoquer cette disposition-là. Alors, Alain, en général, là, c'est pas la première fois qu'on organise la caravane là, au Québec. Vous l'avez déjà fait avant. Là.
Exactement, c'est vraiment la troisième fois, la troisième année. En 2020, un peu avant la pandémie, là, il y a eu une caravane ici à Montréal qui a été faite pour aller déposer une demande au bureau de comté du premier ministre Legault. Le premier ministre Legault qui est dans la Naudière, l'Assomption, hein, c'est là son bureau.
Est-ce qu'il vous a répondu?
Alors, non, absolument pas. Il n'y a aucune espèce de réponse qui a été donnée par leur bureau de M. Legault. Alors, cette fois-ci, ben, on va amener ça au centre du pouvoir, si on peut l'appeler.
Tout à fait.
Pour l'expression. Mais je veux mentionner aussi qu'il y a présentement un recours devant les tribunaux, la Cour supérieure du Québec, pour justement invalider l'article 636. C'est un cas qui est le cas Luamba. C'est un jeune noir qui, ici à Montréal, avait été interpellé de multiples fois. Et puis, justement, les avocats ici ont amené ce cas devant les tribunaux, une demande déclaratoire pour faire invalider l'article qu'ils disent étant discriminatoire. Alors moi, j'ai eu l'opportunité et l'honneur d'assister au témoignage de beaucoup de Noirs qui ont été profilés en conduisant les véhicules et des personnes noires de toutes catégories. On a eu, moi j'ai vu trois joueurs professionnels de hockey qui jouent dans la Ligue nationale présentement ou qui sont venus témoigner.
Ah oui?
Absolument, qui ont été interceptés, qui ont été justement interceptés ici à Montréal. Bien entendu, il y a François Ducas qui est venu parler de son cas. Il y a Leslie Blow qui est venu. Mbaye, c'était une formation en profilage racial que le juge a reçu de par les témoignages des individus qui se sont présentés.
Tu sais quoi, au Québec, pendant longtemps, là, les gens disaient que ça n'existait pas, tout ça, mais depuis, on a commencé à en parler depuis quelques années, là, les langues commencent à se délier. Et tu sais, hier soir, une dame, elle est avocate, c'est une dame, je pense qu'elle est haïtienne élevée ici, adoptée ici, là, on m'a contacté, quelqu'un, elle est passée par l'intermédiaire de quelqu'un qui m'a contacté hier soir, elle m'a dit, elle est avocate, elle a été profilée trois fois à Québec et elle veut prendre la parole samedi.
Ah,
ben oui, alors là, je lui ai dit, bon, après l'émission, la 21h, on va s'appeler pour qu'elle m'explique son cas. Donc, les gens viennent maintenant à nous, là. Elle, comme tu disais, là, c'est toutes les catégories sociales, là. Elle, c'est une avocate, elle a quand même une bonne condition, mais la police de Québec l'a interpellée 3 fois et elle a demandé à prendre la parole samedi.
Ah, c'est parfait, c'est comme Kwadwo Yeboah.
Yeboah qui sera là samedi aussi, oui, l'avocat Yeboah sera là samedi.
Oui, l'avocat, oui, lui aussi, il y a une poursuite de 4 millions contre la ville de Montréal présentement. 4 millions de dollars.
Pour rappel, en janvier 2021, Yeboah, son cas a défrayé la chronique ici au Québec. Là, la police l'a arrêté avec sa fille, l'ont menotté simplement parce qu'il était en BMW, en Mercedes, hein, je pense, lui, il était en Mercedes, là. Puis on l'a arrêté, il a porté plainte là. Ils se sont rendus compte de leur bévue quand ils ont découvert qu'il était avocat, mais c'était tard. Parfait. Donc, Yeboah sera aussi là samedi.
Absolument, mais juste une anecdote, c'est que cette même journée-là, c'est la journée que M. Camara a été arrêté.
Tout à fait, exactement.
Tu vois?
Donc, c'était un party pour les policiers ce jour-là.
Ah! C'est incroyable.
Alors, c'est ça, les amis, les citoyens et citoyennes issus des communautés noires et racisées, ainsi que les autochtones qui sont régulièrement visés par le profilage racial, réclament simplement le droit d'aller et de venir. On ne réclame rien d'autre que ça, là. Nous ne demandons aucun privilège, seulement le respect de ce droit d'aller et venir. Ce droit semble être reconnu à l'ensemble des Québécois blanches et blancs, mais pas à nous. Ce déni de droit questionne directement les fondamentaux démocratiques de nos institutions qui sont censés traiter également tous les Québécois et Québécoises. Donc, si la question de l'égalité du droit, du respect du droit vous tient à cœur, le profilage racial est un enjeu concret contre lequel il faut lutter. Là. Donc, on se retrouve samedi. Donc, je rappelle que nous organisons samedi une caravane pour dénoncer le profilage racial et réclamer la révocation de l'article 636 du Code de la sécurité routière au nom duquel les policiers nous profilent. Donc, On va quitter 13h. On se retrouve à 13h au 2400, je répète, au 2400 boulevard Louis XIV à Beauport. On va se réunir là-bas à 13h. Il y aura une petite animation et puis il y aura des prises de parole. Nous allons quitter là-bas. Nous nous dirigerons vers le centre-ville. Nous nous arrêterons devant la centrale de police Victoria où il y aura une petite séance de prise de parole. Et puis nous allons continuer à l'Assemblée nationale où nous devrons arriver à 15h30. Donc là, à 15h30, il y a un grand rassemblement où les gens vont, on va présenter les gens qui ont été profilés, qui ont gagné leur cause ou pas, et nous allons présenter aussi nos revendications au futur gouvernement, aux futurs députés. Donc, si vous pouvez vous joindre à nous, à la caravane, à 13h, au 2400 boulevard Louis XIV, ça serait magnifique. On va être nombreux, là, 20, trentaine de véhicules, on va être nombreux. Si vous êtes, nous comprenons que certains sont soucieux des questions environnementales, c'est parfait. Nous avons prévu de compenser notre émission de gaz de GES que vont produire les voitures là. Donc on va acheter des émissions, mais la symbolique est importante. En conduisant la voiture, c'est pour dire aux policiers, nous sommes noirs et libres, noirs et fiers de conduire le véhicule que nous voulons. Nous avons le droit de conduire le véhicule que nous voulons. Donc c'est ça la symbolique de la caravane noire au volant là. C'est pas pour émettre des GES, non, c'est pour ça là. Donc on va compenser en achetant des GES au nombre des véhicules que nous allons utiliser pour la caravane. Donc, allez sur la page Facebook de Collectif 1629. C'est le collectif qui chapeaute un peu l'organisation. Là. Donc, allez sur la page Facebook Collectif 1629. Écrivez, il y a une page là pour remplir si vous allez venir à la caravane en voiture. Donc, selon le nombre de voitures que nous allons acheter la compensation de GS. Donc, c'est un peu ça ce qui est. Donc, allez sur la page Collectif 1629, vous allez partager ça dans vos milieux. Donc, je rappelle que cette caravane est organisée par le Collectif 1629, la Coalition Rouge, le Forum Jeunesse, la Table de Concertation du Monde de l'Histoire des Noirs, le groupe La Caille des Communautés Haïtiennes de Repentigny, la Communauté Burundaise du Canada, section de Québec, le Collectif de Lutte et d'Action contre le Racisme, la Ligue des Droits et Libertés, section de Québec, le Regroupement d'Éducation Populaire en Action Communautaire des Régions de Québec et Chaudière-Appalaches, la Casa Latino-Américaine, l'Alliance de la Fonction Publique du Canada, section de Québec, et le Service de Référence à Périnatalité pour les Femmes Immigrantes de Québec. Donc, un groupe de 10 organismes qui sont mis ensemble, des organismes de Québec, Repentigny et Montréal, qui vont organiser cette grosse caravane-là. Donc, rejoignez-nous à 13h, ou alors, si vous ne pouvez pas, rejoignez-nous au rassemblement à 15h30. Mon cher Alain, est-ce que tu as un dernier mot?
Je vous remercie, le groupe 1629, de son leadership. C'est vraiment une action importante qui va viser à faire modifier des règles et des lois qui sont discriminatoires pour la population noire et racisée du Québec.
Merci beaucoup, mon cher. Et puis, je rappelle que tu es l'un des co-porte-parole en anglais. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, s'il y a des médias en anglais qui veulent une entrevue, bah, ils peuvent te contacter directement ou alors contacter Laura aussi. Sure. Moi, je suis le porte-parole en français. Laura et Alain sont les porte-parole en anglais. Donc, Alain, bah, tu vas propager la bonne nouvelle à Montréal. Alain de Montréal.
Absolument, absolument. On s'en vient.
Merci, mon cher. On se voit samedi à Québec.
À samedi.
Salut. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sur CKIA 88.3 FM à l'émission Dignité Noire. Vous pouvez toujours suivre nos émissions en balado sur www.ckfm.org. Une petite pause et puis je reçois Michel, notre nouveau chroniqueur qui est déjà en place. Il a hâte, hein, il est déjà là, là. Puis Gaston n'est pas encore là, j'imagine. Gaston, viens-t'en. Gaston entre là. Le temps qu'on passe cette petite pause musicale. Vous êtes bien sur CKIA 88.3 FM à l'émission Dignité Noire. Alors, je termine cette première émission. J'adore cette première émission-là. C'est relax. Je reçois juste des potes, des gens que je connais. On commence tout doucement là. Alors, j'en reçois deux, des gens que je connais bien, mais qui se joignent, et qui se joignent, je veux dire, à Dignité Noire aujourd'hui comme chroniqueur. Donc, je commence par Michel Rensi. Bonsoir, Michel.
Bonsoir. Est-ce que ça sent?
Ça va bien?
Oui. On s'entend pas ma voix.
Ça va, tu as dans les deux micros, c'est bon?
Ouais, là c'est correct.
Alors, comment vas-tu, mon cher Michel?
Ben, ça va très bien. Je suis très heureux d'être avec vous, très heureux que je sois reçu.
Chroniqueur?
Que je sois chroniqueur.
Tu n'es plus invité, là. Toi, on t'a invité par le passé, là. Quand on était sur la rue Saint-Joseph, depuis Haïti, tu nous faisais des chroniques sur Haïti.
Ouais, il y avait des émeutes, des troubles politiques à l'époque. En Haïti, avec Jovenel Moïse.
Fait que là, tu as rejoint l'équipe comme chroniqueur. Tu vas nous parler un peu de toi, là, tu es étudiant à l'Université Laval aussi. Gaston, comment ça va?
Très bien.
On t'a reçu la dernière saison là, pour ton dernier livre.
Exactement.
Bah, je ne savais pas que tu allais nous rejoindre. C'est toujours bien.
Ça. J'ai un coup de foudre.
Ah, c'est bien. Ça veut dire qu'on fait bien notre job.
Exactement.
Alors, ça va bien?
Très bien.
Vous avez passé un bel été?
Très bien, ça a bien été.
Alors, l'objectif ici, c'est de vous présenter à nos auditeurs, auditrices, qui vous êtes, pour que les gens vous connaissent un peu plus. Alors, Nancy, je vais commencer avec toi. On sait qu'on se connaît depuis quelques années quand même, là.
Moi, je t'ai rencontré en 2018.
Hey, ça fait longtemps.
Chicoutimi.
Oui, on s'est rencontré à Chicoutimi. À l'ACFAS. C'est là où on s'est connus, c'est ça. Avec la défunte
Florence
Pio. Père son âme. Donc, c'est ça. Toi, quand je t'ai connu, tu étais étudiant à Haïti.
Ouais,
tu venais souvent quand même ici.
Ouais. J'étais en fin de cycle de formation en sociologie. Je faisais une licence en sociologie à ce moment-là.
Okay.
Donc, je participais dans un projet de recherche avec Florence Piron. Le projet SOAS, Sciences ouvertes en Haïti et en Afrique francophone. Qui fait, dans le cadre de ce projet, j'ai eu à faire certains déplacements, notamment ici au Québec.
Tu venais chaque année pratiquement, ou deux fois par année.
Au moins deux, jusqu'à deux fois par année.
Fait qu'à un moment donné, je me pensais que mais lui, il est ici, là, pourquoi il n'est pas encore à Haïti. Mais toi, tu fais plein de choses, hein. Tu t'occupes de quoi, Wikipédia, Académie, ou quelque chose comme ça.
J'ai un intérêt particulier pour tout ce qui est vulgarisation de savoir. J'ai un intérêt, notamment les savoirs haïtiens. C'est très lié à la notion de justice cognitive, d'injustice cognitive, parce que
Pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi justice cognitive?
C'est le concept de Shiv Vishwanathan qui prône plutôt un dialogue complémentaire entre toutes les modalités de connaître, entre toutes les formes de connaissance. C'est-à-dire, il n'y a pas de privilège pour un certain mode de connaissance, parce que à la base c'est ça la science. Bon, j'ai le plaisir à appeler la science la science blanche, la science normative. Il y a une catégorie de savoirs qui sont mises de côté.
Ouais. Parce que pour tout privilégier le savoir normatif. Là.
Tout simplement parce que c'est des savoirs qui ne sont pas élaborés suivant le cadre normatif de la science occidentale, okay. De la science normative. Donc, c'est ça. En gros, la justice cognitive, c'est ça. Puis, c'est une espèce de domination quoi, d'une catégorie de savoir par rapport à une autre
qui fait
ça cause un déséquilibre. Et dans le cadre du projet SOA, en tout cas le mouvement de la science ouverte, interprète ce déséquilibre comme des cas d'injustice cognitive. Et je trouve l'un des symptômes d'injustice cognitive, c'est cette invisibilité d'un ensemble de savoirs de par les lieux que ces savoirs sont construits. Par exemple, les savoirs, les connaissances scientifiques produites dans les Suds sont souvent invisibilisées par rapport aux savoirs qui sont produits dans le Nord. Il y a comme
une même les savoirs normatifs là.
Ouais.
Scientifiques produits dans le Sud sont déconsidérés ici.
C'est ce que je suis en train de dire. Ouais.
Parfait.
Oui, il y a cet aspect.
C'est pas seulement le savoir du village là. Mais...
Exactement. Ouais. Il y a une espèce de système monde de la science, et dans ce système monde, il y a la métropole. Ouais. La métropole, c'est comme le centre de documentation, le centre de théorisation. C'est comme le lieu qui dicte le sens du savoir, qui dicte le sens du savoir. Et en bas, il y a la périphérie. La périphérie, c'est des pays qui sud, qui sont comme dans un rapport de dépendance par rapport au nord en termes de théorisation, etc., etc.
C'est clair que donc cette suprématie occidentale là, s'exprime aussi en science. Ça s'exprime dans le domaine militaire, dans le domaine économique. En fait, c'est un système
épistémique.
C'est un système vraiment.
Fanon,
c'est
une domination systémique. Racisme épistémique.
Exactement. Ce que les gens ne veulent pas reconnaître.
L'exploitation n'est pas uniquement dans l'économie, politique.
Ouais, c'est vraiment tout. C'est tous les secteurs de la vie, dans le fond. Et donc, toi, tu as fini ta licence là-bas, et puis tu es venu ici faire la maîtrise.
Là-bas, puis j'ai fait une maîtrise ici. J'ai fait une maîtrise sur mesure en intelligence artificielle, parce que moi,
je n'ai plus en sociologie. Là.
Je suis en sociologie. Parce que moi, il y a quelque temps, je suis tombé en amour avec tout ce qui est interdisciplinarité,
okay.
Et tout ce qui est technologie. Surtout avec ma rencontre avec Edgar Morin, que j'aime beaucoup, la théorie de la pensée complexe.
Ouais.
Je suis tout à fait contre tout ce qui est carcan disciplinaire, disjonction.
Tu ne peux pas rentrer dans des cases, là.
Exactement. Moi, je suis plus dans liaison, pluralité de savoir, pluralité de connaissances, etc. Puis ça m'a amené vers ce programme intersectoriel à l'Université Laval. Moi, le programme sur mesure, c'est ça, c'est interdisciplinaire avec une orientation. Okay. Moi, j'ai choisi l'orientation intelligence artificielle.
Parfait. Un secteur qu'on ait un réel boom. Ouais. Là, tu as fini ta maîtrise.
Oui, j'ai fini la maîtrise.
Tu continues ou tu arrêtes là? Ouais, tu vas au doctorat Toi, tu aimes beaucoup étudier, hein, Michel. les Noirs aiment faire l'école. Là.
Ça fait deux semaines que je suis au doctorat.
Tu as commencé déjà là?
Oui.
Bonne chance.
Ce matin même, j'étais en cours.
Ah ouais? Tu as déjà un sujet de thèse?
Grosso modo, je m'intéresse. Mon projet de thèse, c'est dans une. Comment je peux dire ça? C'est comme. C'est un projet qui est au carrefour de l'éthique de l'intelligence artificielle, de réadaptation, de design et d'interaction sociale à distance.
Okay.
En gros, c'est un projet qui vise à favoriser, en tout cas, l'employabilité des personnes en situation de handicap à partir de l'intelligence artificielle.
Ah, waouh, ça c'est bon ça.
C'est ce que j'essaie de mettre en œuvre dans le cadre de mon doctorat actuellement.
Super, intéressant. Ça a du potentiel social, un impact social.
Dans l'ingénierie pure de la chose.
Okay.
Je suis plus dans le côté social.
L'application. Moi, j'ai commencé un doctorat que j'ai pas fini, mais quand on avait commencé un doctorat, notre directeur de thèse nous disait, quand vous choisissez un sujet, là, il faut que ça ait un impact social. Là, parce que les gens payent cher pour votre doctorat. Ne faites pas un truc théorique. Là.
Faites
que ton sujet a un impact social. Là. Mais bravo, mon cher. Bonne chance. Tu en as pour 4 ans, au moins. J'espère que tu as. Mais toi, tu es un gars brillant. Tu vas faire ça. Nous autres, on a duré sans finir. Là, mais... Alors, Gaston, toi, tu es un écrivain, tout ça. 3 livres déjà.
Deux.
Ok. Deux. Le dernier, c'était Oumou, t'as réussi ici.
Exactement, les déchirements. L'office funèbre n'aura pas lieu. Moi, je suis passionné de la littérature.
Ok.
Mais à base, je suis philosophe, puis théologien.
Parfait.
Donc, ce sont des sciences connexes quand même.
Toi aussi, tu es au doctorat.
Je termine. C'est...
Mais là, je suis entouré de docteurs. Hein. Notre émission prend des galons. Là. Dignité Noire prend des galons. Donc, tu fais un doctorat en théologie qui porte sur quoi?
Sur l'hospitalité comme question théologique.
Ah là, oui, c'est intéressant ça.
L'accueil.
Mais le monsieur François Legault, là, qui n'aime pas les immigrants, là, il faut lui qu'il vienne lire ta thèse. Là, hein. Il dit des propos très xénophobes depuis...
C'est très complexe.
Depuis deux semaines. Là. Parfait. Donc, tu soutiens bientôt là.
J'ai reçu les rapports de la prélecture, donc okay. Je suis en train de serrer les corrections, les précisions qu'ils demandent, puis après ça va être le dépôt initial. De la
Bravo prélecture. Mon cher, ouais. On va aller à ta soutenance. Donc toi tu viens de RDC, République démocratique du Congo.
L'ancien Zaïre.
L'ancien Zaïre, c'est ça, de Mobutu, Sese, Soko, Kuku, Bendu, Waza, Bengo.
Exactement.
Hey, mon Dieu, toute une phrase. Alors là, à part les études, la recherche, tu travailles aussi. Dans les hôpitaux, je pense.
Je suis intervenant en soins spirituels.
Ok, ça c'est quoi ça? Ça existe encore
Avant c'était ce qu'on appelait les aumôniers des hôpitaux.
Ah ok.
Après c'était devenu des agents pastoraux,
okay.
Des animateurs de pastoral.
Mais qu'est-ce que vous faites à l'hôpital? Vous priez pour les gens qui vont mourir ou quoi?
C'est l'accompagnement plus que la prière.
Ah,
c'est l'accompagnement.
L'accompagnement vers la fin de vie.
Les médecins ils soignent le corps, les psychologues ils vont soigner l'âme, nous on soigne l'esprit.
Waouh, il dit ça bien, hein? Il défend bien sa job, lui. C'est ça, Brice Exactement. Veut savoir, c'est quoi le quotidien? Qu'est-ce que vous faites au quotidien?
Le quotidien, c'est-à-dire, on reçoit un appel ou une requête, soit du médecin, soit de l'infirmière, okay. Qui nous appelle, qui est tel monsieur ou telle madame, peut-être est anxieux ce matin, il aurait okay. besoin d'un espace de parole pour se dire.
Okay.
Parce qu'on ne soigne pas seulement avec les pilules, ou avec une thérapie, mais on a besoin aussi d'un espace où on peut se dire, où on peut dire ce qui nous fait de la peine.
Est-ce que c'est les croyants forcément ou c'est juste n'importe qui?
C'est pour tout le monde,
ah, okay.
Mais on accompagne aussi les aspects religieux.
Okay.
Si quelqu'un a besoin de la prière, on peut la faire. Si elle a okay. besoin de la communion, du sacrement des malades,
ouais.
Mais c'est plus que ça, donc c'est englobant.
Mais c'est intéressant, c'est-à-dire on prend toutes les dimensions de l'humain. Hein.
Exactement.
Âme, esprit, corps, c'est important ça, ouais. Ce niveau.
Quand on est à l'hôpital, tout ça est convoqué, sollicité.
Et il paraît que vers la fin de vie, là, même les non-croyants se convertissent. Là. On racontait l'histoire de trois philosophes espagnols qui ont passé toute leur vie à dire que Dieu n'existe pas, et puis à l'article de la mort, ils sont convertis.
C'est Voltaire, non?
Mais on m'avait parlé, c'est mon prof de philo qui nous disait ça au lycée, là, ces trois philosophes espagnols. Elle était espagnole dans le fond. Voltaire aussi a fait ça?
On raconte ça.
Ah, ok, d'accord.
Mais si croit à Dieu, s'il ne croit pas à Dieu, mais il y a la question du sens, quel est le sens
exactement,
de ma vie?
Exactement, ça. Tout le monde se pose cette question.
Quand on est à l'hôpital, c'est comme tous les projets tombent à l'eau, puis notre vie n'a plus de sens.
Exact.
Puis on a besoin de quelqu'un, d'un interlocuteur crédible pour nous parler de ces questions du sens.
Ouais, dans ces conditions-là, on se retrouve face à soi. Hein. On se pose des vraies questions, des questions existentielles. Bon, alors, on va aborder le contenu de vos chroniques. Les gens nous écoutent. Il nous reste quoi, 4 minutes? En 2 minutes, là, on va se partager 2 minutes. En quoi consistera ta chronique là? J'ai dit étude haïtienne, mais qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir de la pensée haïtienne?
Études haïtiennes, ça renvoie forcément au stock de connaissances produites en Haïti. Pas forcément en Haïti, mais sur Haïti, sur le réel haïtien. Okay. Sur le réel haïtien, c'est-à-dire sur les différentes dimensions d'Haïti, culturelles, politiques, économiques, mais surtout historiques. Ça m'intéresse beaucoup, le côté
Pourquoi
historique
Pourquoi
de la
le côté
chose.
Historique ben, tu penses que ça a été sous-estimé longtemps ou...
Oui, il y a... On parlait beaucoup plus de l'histoire d'Haïti avant, de ce que représente Haïti. On en parlait beaucoup plus avant. Aujourd'hui, on n'en parle presque pas. Ou quand on parle d'Haïti, aujourd'hui, c'est plus du tremblement de terre qu'on parle, c'est plus des ouragans qu'on parle, c'est plus des bouleversements, des coups d'État, de l'assassinat, des cas d'assassinat d'hommes politiques qu'on parle, alors qu'on a, une histoire extraordinaire, nous autres, en Haïti. Mmh. Donc, j'aimerais... ma chronique, c'est... J'aimerais faire une nuance ici, parce que moi, quand je parle d'études haïtiennes ici, je ne parle pas uniquement de tout ce qui est sciences humaines et sociales, philosophie, ce n'est pas juste ça.
Okay.
Les études haïtiennes, pour moi, c'est plus que ça, c'est aussi la littérature, c'est aussi...
Tout le savoir produit...
Exactement, c'est stock de connaissances...
Par Haïti ou sur Haïti.
Sur Haïti, exactement. Okay. Mais justement, avec un intérêt particulier sur l'histoire. Okay. Sur l'histoire, sur le rapport d'Haïti... avec les autochtones, par exemple, sur le rapport d'Haïti avec l'Afrique, sur le rapport d'Haïti avec le Canada. J'aimerais faire découvrir tout ça. J'aimerais faire découvrir les liens que tissent un ensemble de grands intellectuels haïtiens avec des études d'autres pays, avec le patrimoine scientifique d'autres pays comme le Canada, les États-Unis, la France. Là, je songe par exemple, je t'en avais parlé dernièrement, je songe à Antenor Firmin de l'égalité des races humaines.
C'est le premier qui a répondu à Gobineau avec cette thèse raciste.
Aujourd'hui, on ne peut pas parler de combat contre le racisme sans considérer cette œuvre de
Firmin. Mais ça, tu as raison. Même les militants antiracistes ne connaissent pas Antenor Firmin.
Ouais,
mais tu ne peux pas parler de racisme, d'antiracisme. Tu ne parles pas d'Antenor Firmin, c'est la base. Vous partez de là.
J'aimerais consacrer des numéros sur cette œuvre de Firmin. Donc, la chronique consistera à faire des synthèses d'ouvrages. Puis à donner aussi la parole à des penseurs, des chercheurs.
Ah, ça c'est intéressant, j'aime ça. Ouais. Tu peux les recevoir, faire des entrevues ici.
Oui, ça ferait plaisir.
Intéressant, mais écoute, moi je suis d'accord avec toi. Haïti, pour nous les Noirs d'Afrique et du monde, Haïti c'est, comme dit Césaire, c'est là où la négritude s'est mise debout.
Pour la première fois.
Pour la première fois. Et puis Haïti, ça représente quelque chose pour nous les Noirs. Malheureusement, même dans la mémoire noire, on tend à oublier ça. Mais Haïti a produit d'immenses intellectuels. Écoute, le mouvement de la négritude ne serait pas parti sans les intellectuels haïtiens. La révolution haïtienne, la première révolution vraiment sociale, parce que la révolution française, c'est une révolution bourgeoise. Mais la première révolution populaire, c'est haïtienne. Mais on n'en parle même pas. On cite la révolution américaine, la révolution française, mais on ne parle pas de la révolution haïtienne. Mais c'est la première révolution démocratique, vraiment démocratique du monde. On n'en parle même pas.
Par des esclaves, des
vêtements
considérés comme des va-nu-pieds,
et
qui a vaincu. J'aimerais parler d'ailleurs du mot, je ne sais pas si vous connaissez le terme vertière. Daniela Ferrier a fait un gros combat pour que ce terme soit, pour que ce mot soit,
là où la révolution a commencé,
soit dans le dictionnaire français. En France, on ne parle pas de vertière. Mais vertière, c'est le lieu où il y a
la
eu
révolution.
La dernière bataille. Où on a vaincu la plus puissante armée de l'époque, l'armée de Napoléon.
Je comprends pourquoi les Français ne veulent pas en parler. Mais ici, tu as le micro, tu vas en parler comme tu veux, mon cher. Mais écoute, j'ai hâte. Et je suis sûr que les auditeurs qui nous écoutent ont hâte de suivre tes chroniques. Alors, mon cher.
Oui.
Tu vas pas nous parler de l'accompagnement spirituel, j'imagine.
Ça fait partie.
Tu veux nous parler des parcours des Afro-Québécois. Comment ça s'intitule? J'aime beaucoup ton titre là. Mes bagages et puis mes valises.
Nos valises d'hier, nos bagages d'aujourd'hui.
Pourquoi? Ça signifie quoi?
C'est poétique. Hein?
Ah oui, tellement.
T'es né ici?
Non, je suis arrivé ici avec mes bagages.
T'es venu, c'est avec quand on voyage, on dit fais ta valise.
Ouais.
Mais quand on arrive, on doit défaire ses bagages.
Ouais.
Alors, c'est que on est venu avec une valise, puis il y a des choses dedans. Puis, arrivé ici, on apprend des choses, et on a un bagage. Mais parfois, ce bagage, il n'est pas visible. Mm-hmm. Alors, c'est un parcours social qui aura des volets, un volet interactif avec des personnes, des gens qui travaillent à l'épicerie, dans le salon de coiffure, ou dans le sport, ou la politique, ou les étudiants. Tous ces aspects sociaux, c'est interactif. Mais j'aimerais aussi apporter un aspect réflexif. Interpréter, démocratiser, voir qu'est-ce qu'est une participation sociale des Afro-Québécois. C'est quoi cette affaire-là?
Magnifique.
C'est ça ce que j'aimerais apporter à l'émission.
Dans une chronique sociale, il y a comme Mylène Moisan, chroniqueuse au Soleil, elle fait un truc comme ça. Puis j'adore cette chronique-là. Elle va prendre un fait social de Québec et puis elle écrit une chronique dessus. C'est très bon. Je pense que c'est très intéressant parce que tu vas nous faire connaître. Les gens vont connaître vraiment. Nous-mêmes, on va se connaître à travers ça. Parce qu'on ne se connaît pas tous.
Exact. Je vais demander qu'est-ce que tu avais mis dans ta valise à venir à Québec.
OK.
Est-ce que c'est encore dans ta valise? Est-ce que tu l'as déployé, ce qui était dans ta valise? Est-ce que tu as acquis d'autres choses comme bagages? Parce qu'on peut avoir des connaissances, on peut avoir des choses avec lesquelles on est venu jusqu'à Québec, mais ça va rester dans nos valises. On n'aura pas cette audace de sortir ce qui est dans nos valises, parce que on a toujours, on est comme redevable face à quelqu'un qui nous accueille. Moi, je travaille sur l'hospitalité. Alors, quand je viens chez toi, je suis comme redevable. Alors, je n'ose pas sortir tout ce qui est dans ma valise.
Mais parfois, il faut le sortir.
Exactement.
Pour mélanger.
Exactement. Je connais des gens qui sont venus avec beaucoup de choses dans les valises, mais qui vont mourir dedans.
Ah ouais. Alors, malheureusement, c'est chronique, le Québec qui en perd.
J'espère que la chronique va permettre de déployer tout ce qui est dans nos valises.
Ah, j'ai hâte déjà, le temps presse, mais j'ai hâte de vous écouter. C'est aux deux semaines donc, dans les prochaines semaines, on va vous écouter là-dessus. Mais merci beaucoup, c'est important ce que tu dis. Je pense qu'on vient, on apporte un peu, mais on acquiert aussi. Et les gens d'ici doivent être ouverts à acquérir aussi ce qu'on apporte.
What? My radio stop on CKUT. And you don't know? But nah, fix it. CKUT, the number one radio station in Montreal. Give you the sun, the moon, the rain, the stars and the mountains. CKUT, give you the word.
Yeah. So at the beginning, in 1 minute.
I put it on off?
Yeah. Or you can just, right, you can just do on off too.
Êtes-vous locataire à Montréal? Avez-vous des questions sur vos droits? Votre comité logement peut vous aider. Pour trouver le comité logement pour votre quartier ou pour plus de ressources, visitez le www.rclalq.qc.ca.
Chez Élections Québec, on note que les gens votent de moins en moins. Alors pour inverser la tendance, on fait l'inverse de ce qu'on ferait normalement. Normalement, on aurait essayé ben fort d'attirer votre attention. Mais pour faire l'inverse, on va essayer pas fort. Encore moins fort que ça. Comme ça. Et c'est peut-être en essayant vraiment pas fort d'attirer votre attention qu'on va justement réussir à attirer votre attention. Ça, c'est fort. Le 3 octobre, on inverse la tendance. Tout le monde vote. Un message d'Élections Québec.
Hey, this is Roxanne Shanté, and of course you know I am listening to CKUT 90.3.
The rhymes you're about to hear me recite are dedicated to all of those that...
Yes, that's your volume.
Perfect. Welcome to Queer Core on CKUT 90.3 FM, Montreal's only queer culture show that bridges any divide between queer sex and radical queer politics. Due to the fabulous nature of queer experience, tonight's program may contain sexually explicit or coarse language. You've been advised.
Pop Montreal International Music Festival is back from September 28th to October 2nd, 2022. 5 days of music and over 200 artists, including teen punk viral sensations, the Linda Lindas, Canada's first drag race winner Priyanka, 70s British funk group Simone, Grammy-nominated and Juno Award winner Alison Russell, iconic dancehall queen Sister Nancy, post-rock legends Tortoise, and many more. The festival also features film screenings, visual art, symposium discussions, and as always, many surprises. Get your tickets and passes now at popmontreal.com. A CKUT co-presentation.
You're listening to Hotel the Blues. You're on 90.3 CKUT FM. To get tonight's program started off, we're going to turn to the king and perhaps one of my... Okay.